Un livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Lectrice, lecteur, autrice, auteur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Un livre des livres, Un livre des livres, la petite émission consacrée à tous les genres littéraires. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en ma compagnie un auteur que j'ai pu rencontrer lors de la précédente édition de Regard Noir, un festival dédié au polar qui se passe à Niort, charmante petite ville des Deux-Sèvres. Ce festival est vraiment passionnant et intéressant, il reçoit chaque année plus d'une vingtaine d'auteurs qui viennent de tout horizon artistique. Mais le seul bémol de ce festival, c'est qu'il ne fait jamais sa publicité au-delà de la frontière de la ville de Niort. Donc c'est un peu compliqué quand vous habitez pas très loin en fait, parce que si vous vous déplacez pas à l'intérieur de la ville, vous n'avez pas les dates. Enfin bref, là ici, coup de bol, il se trouve que après... Une matinée de travail, j'ai pu me déplacer sur le lieu du festival et rencontrer quelques auteurs. Et là, au niveau de l'affiche, j'ai pu rencontrer Michael Mention. Ce dernier s'est gentiment prêté au jeu de l'interview, qui n'était pas du tout prévu au départ. Donc entre deux dédicaces, ce qui est vachement sympa de sa part, parce que bon, quand même, il avait un petit peu autre chose à faire. Alors je vous propose du coup de d'abord l'écouter, vous transmettre sa passion pour l'écriture, sa passion pour la musique, sa passion pour la compréhension. C'est ce qui ressort vraiment de l'entretien qu'il m'a accordé. Michael est quelqu'un de vraiment passionnant à écouter, tout autant qu'il l'est à lire. On se retrouve juste après l'entretien et je vous parlerai de son dernier titre, Les Gentils, paru chez Belfond.
Michael, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir, c'est très gentil à vous.
Merci à toi. Alors, oui, je te tutoie. Hein,
oui, bah, bon. Aucun problème, c'est avec plaisir. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est comment est venue l'envie d'écrire ?
Oula, donc il faut que je fasse appel à mes lointains souvenirs. Quand j'étais gamin, je dessinais en fait. Quand j'étais ado, je faisais des bandes dessinées. Alors des bandes dessinées à mon niveau, hein. Je dessinais ma famille. Mais c'est vrai que j'étais un fan de films d'action à l'époque. J'aimais beaucoup Predator, Terminator, tout ça quand j'avais 12-13 ans. Donc c'est vrai que j'ai vite dessiné des bandes dessinées quand j'avais 12-13 ans avec de l'action, du suspense. Donc on va dire mon premier processus narratif d'imagination, on va dire, vient de là. Et l'écriture est venue parce que j'ai découvert quand j'étais à la fac, quand j'avais 19 ans, j'ai découvert Camus, Céline, Giono. J'étais déjà fan de cinéma. J'étais fan de Melville, Louis Malle, voilà, James Cameron aussi, voilà, Mac Tiernan. Tout ça, on va dire, a dessiné un peu mon parcours. Je me suis mis à écrire des nouvelles. J'ai découvert des proches à cette époque-là aussi. Donc mes tout premiers textes étaient des satires, satires des médias, satires un peu, on va dire, sociologiques. Même si c'était un peu en poulet à l'époque, voilà, parce que j'avais 19 ans, donc j'étais pas fini encore. Voilà, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, mon écriture a pris plus d'ampleur et j'ai eu envie de raconter d'autres choses. Donc je suis passé de la chronique satirique aux nouvelles et j'ai écrit un premier roman, voilà, qui était pas du tout bon à l'époque, hein, ça nous renvoie à 2000-2001. Et puis après, voilà, ça s'est perfectionné et puis j'ai fait des progrès, et puis après, premier éditeur, et voilà.
Alors quand on regarde votre bibliographie, l'histoire a une place très importante. Cette passion de l'histoire, elle vous anime ?
Oui, mais ouais, je suis passionné d'histoire au quotidien, je l'ai toujours été, je crois. Je suis avide au quotidien de tout, de découvertes, que ce soit en musique, en bouquin, en histoire. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité, j'aime beaucoup apprendre en fait. Je suis très curieux, j'aime bien comprendre ce qui se passe, enfin le monde dans lequel je vis. J'aime bien aussi des fois laisser pas mal de recul aux choses. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Des fois, je me méfie des livres qui sortent sur un phénomène qui vient de se produire, par exemple. Voilà, j'aime bien laisser mijoter, voilà, me pencher sur la question. Donc oui, je suis passionné d'histoire et voilà. Je sais que par exemple, ma trilogie qui est sortie chez Rivage, il y a 10 ans maintenant, c'est basé sur une enquête criminelle réelle qui s'est passée dans le nord de l'Angleterre entre 75 et 81. J'ai traité cette affaire criminelle non pas par une fascination pour les tueurs en série, ce que j'ai jamais eu, mais parce qu'elle s'est passée dans une période où l'Angleterre était en crise suite au choc pétrolier. Puis surtout, c'était ma manière à moi d'évoquer l'Angleterre du Nord, celle dont on parle peu, donc Leeds, Manchester, tout ça. C'est vrai que généralement, mes intrigues ou les thèmes de mes romans sont, je ne vais pas dire que ce sont des prétextes pour aborder des périodes historiques, mais il y a un peu de ça quand même, voilà.
Ça donne du coup l'occasion au lecteur de mieux appréhender par votre prisme cette période-là.
Oui, c'est vraiment ma démarche. Voilà. Moi, je n'ai pas du tout la prétention d'être historien. Je me documente toujours beaucoup dans mes bouquins, ça c'est indéniable. Mais voilà, mon job, c'est de faire passer un bon moment au lecteur. Et si en plus le lecteur, en refermant le bouquin, se dit qu'il a appris deux ou trois choses, deux ou trois faits historiques, voilà, pour moi, le contrat est rempli. Et généralement, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'aime bien évoquer aussi des faits historiques, soit qui sont méconnus, soit qui ont été traités, mais j'aime bien les aborder sous un autre angle. Par exemple, voilà. J'ai un exemple. J'ai toujours voulu écrire un western. Pendant 8 ans, j'avais cette envie. Donc, je me suis lancé au bout d'un moment. Voilà, c'est un roman qui est sorti l'année dernière chez 10-18, Dehors les chiens. C'est son titre. Et je me documente sur ce roman, donc sur les mœurs, sur les institutions, les vêtements, la bouffe. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même bizarre, on parle de tout sauf des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes absentes de cette époque-là, au niveau documentation, étaient les femmes. Ben, j'ai fait un western qui parle beaucoup de la condition féminine. Voilà. Donc en fait, mon intérêt vient souvent d'un manque d'information qui est assez criant. Et je me dis, puisque personne n'en a parlé, je vais en parler, quoi. Et je pense qu'on est nombreux à faire ça dans le roman noir. On écrit souvent les romans qu'on aurait aimé lire et qu'on n'a pas eu entre les mains. Voilà. J'ai fait un roman sur les Black Panthers, pareil, je te dis, c'est quand même fou que personne n'ait écrit un roman, en France en tout cas, sur cette période-là qui est un bouillonnement culturel, enfin socio-culturel incroyable, qui s'est mélangé aussi avec le mouvement, des gays, le mouvement féministe, tout ce bouillonnement lié à la guerre du Vietnam aussi, les années Nixon, la gauche étudiante. Mais comme j'ai jamais eu l'occasion de tomber sur un livre comme ça, je l'ai écrit, voilà. Et c'est souvent comme ça, du coup.
Alors, il y a également aussi autre chose qu'on remarque dans vos romans, c'est la place de la musique. Du coup, quand vous créez, il y a de la musique autour de vous, et si oui, quel genre ?
J'écoute de la musique au quotidien, voilà. Je suis tombé dedans quand j'avais 10 ans, voilà, comme Obélix, voilà. Non, c'est ma grande passion, comme dirait Omar Sharif. Voilà, j'écoute de la musique en permanence. Voilà, je me lève le matin, j'écoute de la musique, je pars au boulot, j'écoute de la musique, le midi, j'en écoute, quand j'écris en musique, je lis en musique aussi, ce qui ne m'empêche pas du tout, ce qui ne me dérange pas. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très curieux au quotidien, et j'adore découvrir de la musique, j'adore redécouvrir des albums. En ce moment, je redécouvre un album de Pink Floyd que j'adore, qui s'appelle Animals, de 77, qui est un album dont on parle trop peu, je trouve. Voilà, j'adore la musique, et c'est vrai que souvent, c'est certains morceaux de musique qui vont m'inspirer une certaine manière de raconter un moment, par exemple. Une ligne de basse, un rythme à la batterie. Je me dis, ça conviendrait bien à telle ou telle poursuite, ou une scène de baston, par exemple, ou pour introduire un chapitre aussi, par exemple.
Vous avez écrit un roman dont Miles Davis est également le personnage principal, il me semble.
Oui. Il s'intitule Manhattan K.O.
Et cette idée, ça
m'est venu parce que, alors voilà, donc moi, il faut savoir que je suis surtout rock à la base, je ne suis pas spécialement jazz, et j'ai découvert par le biais d'un ami ce que Miles Davis a fait entre 65 et 75, c'est-à-dire une musique beaucoup plus électrique, beaucoup plus funk, bon, qui sointe le LSD, la coke, parce qu'à l'époque, il était défoncé, voilà, tout le temps bourré, et du coup, j'ai découvert ce qu'il a fait à cette période-là, donc ce qui me parle un peu plus, parce que c'est quand même plus électrique, et pareil, j'ai constaté que c'était une période de sa carrière dont on parlait très peu, et souvent qui scinde aussi, c'est-à-dire il y a les puristes de Miles Davis qui considèrent qu'à partir de 65, c'est plus du jazz, c'est pas bon et tout ça. Bon, moi, je considère que Miles Davis, maintenant, je connais bien le sujet. Je suis beaucoup, beaucoup documenté. Je suis fan de tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que, non, mais en fait, Miles Davis, c'est vraiment, c'est une vraie légende de la musique. C'est l'une des rares légendes de la musique qu'on appelle par son prénom aussi. Voilà. On dit David Bowie. Mais voilà, on dit pas David. Par contre, on dit Miles. Voilà. Voilà. J'écoute Miles. Et c'est vrai, Miles Davis, il incarne 50 ans d'histoire des États-Unis, quoi. Il a traversé tous les courants musicaux. Il s'est toujours adapté. Il a évolué. Tout autour de lui gravitait une constellation incroyable de musiciens, d'Herbie Hancock à Wayne Shorter, Charlie Parker. Et c'est vrai, ça m'intéressait d'écrire sur lui, mais encore une fois, je voulais pas faire un énième roman sur sa vie. Je voulais m'intéresser à une période dont on n'a jamais parlé, à savoir que Miles Davis, entre 75 et 80, il est resté enfermé dans son appartement à Manhattan, parce qu'il a saturé de d'avoir fait autant de, bah, je sais pas, de musique, d'expérimentation. Il était rongé par la drogue, l'alcool, usé par des opérations à répétition qu'il avait subies, des hanches, des nodules qu'il avait eu dans la gorge et tout ça. Donc vraiment, j'avais là l'opportunité de, on va dire, de désacraliser une légende de la musique qui était totalement déchue à cette époque-là, qui était vraiment comme un fantôme. Il faisait 40 kilos, complètement fracassé, ravagé, puis vraiment rongé par la culpabilité. Et puis voilà, et puis surtout, c'était un survivant à l'époque, hein, tous ses potes étaient tous morts pour la plupart. Et donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très romanesque à traiter dans cette histoire-là. Effectivement, ce roman se passe en 77, dans une nuit qui s'est vraiment produite à New York. Il y a eu un blackout, en fait, de 24 heures. Une coupure d'électricité à New York, où New York a été plongée dans le noir pendant 24 heures. Il y a eu des pillages, il y a eu des agressions, il y a eu des incendies. Enfin, c'était le chaos total. Et je voyais là l'opportunité de caractériser le chaos intérieur de Miles Davis à l'époque d'un point de vue de la ville, puisque le personnage principal est quand même New York. Donc je précise que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être pas le bouquin en premier à lire, parce qu'il part vraiment dans tous les sens. J'avais vraiment à cœur de faire un roman qui ressemble vraiment à la psychologie de Miles à l'époque. Donc c'est un roman qui part volontairement dans tous les sens, avec des voyages dans le temps. C'est un roman très psychédélique, qui se lit, hein, je rassure les auditeurs, mais c'est vrai que oui, c'est un roman qui est très... Voilà. Parce qu'aussi, je suis fan de Pink Floyd The Wall, c'est un film avec lequel j'ai grandi, et j'ai toujours voulu écrire un roman sur une rockstar déchue, sur quelqu'un qui serait rongé par le succès, qui serait poussé de force sur scène par les producteurs, et c'est aussi un livre sur ça, c'est un livre sur l'amertume de quelqu'un qui a connu le succès, et les déboires du succès, et qui fait tout un retour sur ça. Donc c'est un livre à la fois très personnel, très introspectif et très musical. Ouais.
Alors au niveau des périodes que vous avez pu étudier pour nourrir vos romans, il y en a un, La Voix Secrète, qui se passe en France, sur une période qui n'est pas forcément la plus prisée dans le polar historique. Et ça vous est venu à partir de quelle réflexion ?
C'est une réponse dans la continuité de celle que j'ai faite tout à l'heure. Effectivement, j'ai lu très peu de livres sur le règne de Louis-Philippe. Alors, je suis pas spécialement fan de Louis-Philippe, mais par contre, je me suis très tôt intéressé au personnage de Lassner, qui est un poète assassin à cette époque-là, au 19e siècle, qui est d'ailleurs présent dans Les Enfants du Paradis. Et il y avait eu un film qui n'est pas un grand film, mais par contre, Daniel Auteuil dedans, il est vraiment exceptionnel. Le film qui s'appelle Lassner, qui est sorti en 90 de Francis Giraud, je crois. Et j'avais donc découvert ce personnage qui est un poète assassin, anarchiste. Alors le mec, il était bourré de talent. Ses mémoires en sont un régal de langue française et d'humour. Et puis surtout, il y a une vision sociologique de la France de l'époque et qui est intemporelle. Il critique la politique, les mœurs, très très bien. Il critique la religion, voilà. Et en même temps, Lassner est un personnage très très avant-gardiste. Et c'est un peu un pionnier parce qu'à l'époque, il revendiquait sa bisexualité, ce qui était quand même assez courageux à l'époque. Il prêtait de la psychologie et des sentiments aux animaux, donc c'était considéré comme une hérésie aussi à l'époque. Donc c'est vrai que Lassner était à la fois ce personnage très intelligent et très, très pertinent, très en avance sur son temps, et en même temps c'est quelqu'un qui a été condamné à la guillotine pour avoir commis des crimes crapuleux. Mais voilà, mais quand je te dis crapuleux, c'est vraiment, c'est-à-dire on a quelqu'un qui venait collecter les impôts, hop, il surgissait dans le dos, il plantait le mec avec un poinçon, donc c'est vraiment le crime bas de gamme. Ça m'a toujours intrigué que ce mec aussi intelligent pu commettre des crimes aussi peu inspirés, en fait. Et en fait, Lassner était un personnage qui était fasciné par la guillotine. Faut pas me demander pourquoi, mais toujours est-il qu'il le dit plusieurs fois dans ses mémoires, il a toujours rêvé d'être guillotiné. À tel point que quand il est jugé et condamné à la guillotine, il applaudit le juge en lui disant « Merci d'avoir validé mon suicide ». C'est comme ça. Moi, je trouve ça assez fou, quoi. Enfin, voilà, c'est un personnage de bouquin. Donc là, c'était un peu long ma réponse, mais tout ça pour dire que du coup, donc forcément, vouloir faire un bouquin sur Lassner, mais j'étais obligé d'évoquer l'époque. Donc je me suis intéressé au règne de Louis-Philippe. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que je suis pas royaliste, hein, du tout. Mais Louis-Philippe, ce qui est intéressant, c'est un roi mais qui a amorcé la transition vers la République un petit peu. Il n'était pas aussi dur que certains rois qu'on a eus comme Louis XVI ou d'autres. Alors bon, il avait quand même des privilèges à l'époque, mais par exemple, les conditions de détention à l'époque étaient quand même un petit peu plus cool. Voilà. La censure de la presse, elle existait, mais elle était quand même moins virulente un petit peu. Voilà. Donc il y avait un certain assouplissement de la royauté, on va le dire comme ça. J'en fais pas l'apologie, mais moi j'aime bien reconnaître, j'aime bien nuancer les choses. Voilà. Donc je suis pas là pour faire l'apologie, je suis pas là pour défoncer non plus tel ou tel personnage historique. Et c'est vrai que je me suis intéressé au règne de Louis-Philippe, à la France de l'époque. Mais bon, La Voix Secrète, et encore une fois, il y a une enquête policière avec un tueur d'enfants. Mais c'était surtout la possibilité pour moi d'évoquer la France de l'époque, la misère de Paris de l'époque, les conditions de travail des enfants,
Mickaël, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Je vais
merci.
Vous laisser retourner à vos dédicaces.
Merci beaucoup. Ben, je vais aller signer mon petit dernier là, qui est sorti. Ben, je fais ma petite pub qui s'appelle Les Gentils et qui est sorti aux éditions Bellefond et qui se passe en 78 encore sur une période dont on parle peu. Voilà.
Et duquel tout à l'heure vous me disiez qu'il est un peu un roman dans lequel vous avez mis tout de vous.
Oui, alors j'ai vraiment l'impression, ça fait un peu argument comme, mais je m'en rends compte. Enfin, je m'en rends compte parce que les lecteurs me le disent. Et surtout ça, j'ai l'impression que tout ce que j'ai écrit depuis 10 ans, c'est mon 13e roman, j'ai l'impression que tout ce que j'ai écrit depuis m'a conduit à écrire ce roman, en fait. Voilà. Au niveau de l'écriture, de mes thèmes de prédilection et tout ça. Parce qu'on retrouve mon attachement à la politique et une critique sociale aussi, il y a ma passion pour la musique. Il y a voilà, beaucoup de choses, en fait, qui se retrouvent dedans. Les Gentils aux éditions Bellefond. Voilà.
On ira ça alors. Merci.
Merci à toi.
Et oui, encore merci à toi, Mickaël, de m'avoir consacré un bon quart d'heure de ton temps. Les Gentils, dernier titre en date de cet auteur, alors de quoi ça parle ? Sur les routes de l'enfer, ça hurle, ça cogne dans la tête de Franck. 6 mois que sa fille est morte dans un braquage à Belleville. 6 mois qu'il attend l'arrestation du coupable. Mais rien, aucun suspect, aucune piste. Et les flics semblent avoir lâché l'affaire. Alors Franck ratisse les bas-fonds de Paris, finit par trouver un vague indice. Il largue tout et embarque dans sa R5 pour un trip halluciné à la recherche de sa proie. Un tox avec un tatouage anarchie. Jusqu'où iriez-vous pour venger la mort de votre enfant ? Franck, lui, va loin, très loin, jusqu'en Amazonie pour traquer un meurtrier parti racheter sa conscience dans un mystérieux camp de hippies. Mais dans cette jungle où la violence est partout, la folie de Franck va se heurter à des âmes plus extrêmes encore. Avec un tel résumé, c'est sûr qu'on s'attend à un récit extrêmement noir et il l'est. Alors, ce roman, c'est un putain de coup de poing dans votre tronche. Désolé pour la vulgarité, je voyais pas comment l'introduire autrement. Moi, c'est l'effet qui m'a fait, c'est une claque monstrueuse, claque qui est rendue possible par l'ambiance que l'auteur arrive à générer avec son phrasé. La manière dont les phrases sont travaillées, écrites, c'est très incisif, c'est taiseux et ça coupe le souffle en fait. On a la respiration à chaque fois, on manque de respiration quand on lit, quand on suit Franck, quand on suit sa psyché, quand on suit ses réflexions, quand on vit avec lui. On a vraiment l'impression de manquer d'air et ça, dès le début du livre, dès la première phrase, ça nous donne cette ambiance-là, une ambiance sombre, déprimante, mais une ambiance qui s'alimente dans ce sens tout au long du roman. C'est un peu comme le supplice de la baignoire, vous savez, on va nous relever un peu la tête à un moment donné, avec des personnages secondaires qui vont accompagner Franck, puis des événements qui vont faire que on replonge dans une bouffée d'angoisse, dans des tensions. Et là, l'auteur, sur l'intégralité du roman, il arrive à faire ça. Le personnage principal de Franck est impressionnant. Beaucoup d'hommes, du coup, de mon âge peuvent s'identifier facilement, hein, vu qu'on est sur la même tranche d'âge. Bon, ce qui fait qu'on a tout de suite une espèce d'empathie pour lui. Le décès d'un enfant aussi, hein, c'est quand même l'un des drames les plus graves qu'on puisse avoir dans sa vie. Dans le début du livre, voilà, on voit Franck, on comprend sa douleur, et on le voit progressivement lâcher la rampe de la sociabilisation, lâcher la société, et s'enfoncer tout doucement dans la vengeance. Parce que pour Franck, dans cette quête de vengeance, lui, il y voit sa résilience. Lorsqu'il va retrouver son ancienne compagne, qui refait sa vie, qui tente d'oublier le drame du coup qui est arrivé à leur enfant, le passage de la confrontation entre les deux est très important, vu que là on a deux résiliences différentes. Pour son ex-compagne, c'est de continuer le chemin vers la normalité, vers la sociabilisation. Pour Franck, lui, c'est la vengeance. Comme le dit cet adage, si tu cherches la vengeance, creuse deux tombes. Et c'est bien ce qui est raconté ici. Franck creuse sa tombe tout au long du roman. Et de toutes les manières possibles. Pas qu'uniquement creuser sa tombe au sens physique. C'est pas uniquement la destruction de son corps qu'il va chercher. Mais ça, vous le comprendrez en lisant le roman. Et d'autant plus que la mort, elle marche aux côtés de Franck et elle va faucher plusieurs personnages qui croiseront sa route. Frank, aveuglé par son désir de vengeance, traverse une immense partie de la France, puis de l'Amérique du Sud. Là, l'auteur me surprend. Après avoir posé le cadre de la jungle urbaine, parisienne et marseillaise, où il en profite pour poser ce regard critique sur la ghettoisation, sur le racisme puissant de l'époque, sur les problèmes également des politiques urbaines, il n'hésite pas à égratigner quelques personnes, il va ensuite transposer les lecteurs avec Franck qui se retrouve dans la jungle tropicale, où les animaux sont tout aussi dangereux que certains personnages rencontrés précédemment, mais tout de même pas autant que les hommes qui s'y cachent, qu'ils soient des travailleurs détachés dans des compagnies pétrolières ou des personnes qui fuient le monde. Si vous me permettez, il faudrait que je revienne sur l'approche étymologique du titre. Le terme gentil a une double signification sous l'Empire romain et qui apparaît dans le roman. Le terme gentil désigne les nations étrangères sous le Populus Romanus, puis chez ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Il correspond au terme hébreu goyim, qu'on pourrait traduire par peuple, et en gros, tous ceux, alors pour les Hébreux, du coup, ce qui correspond à ce qui n'appartient pas à la nation israélite. Donc on a une définition négative au départ du terme gentil. Et ce qui fait qu'on est plus proche, avec le mot gentil, de la notion de l'étranger. Et cette notion de l'étranger, elle est fortement présente dans le roman et de multiples manières. Je vous l'ai dit à l'instant, Michael Mention profite pour apporter des critiques sur le racisme dans les années 80, et le passage à Marseille va être très clair là-dessus sur le rapport à l'étranger des Français. Donc la place des étrangers, entre guillemets, dans la société française, elle est vraiment visible. Un autre type d'étrangers est également présent, c'est ceux qui sont exclus par la société. On a les toxicomanes. Ceux que Franck va rencontrer dans son errance à Paris, le meurtrier de sa fille. Il y a une brillante description de ce Paris bourré de toxico, c'est très clair. Alors c'est vrai que, alors moi ça me fait toujours beaucoup rire parce que les Français admirent, adulent les années 80, encore plus dans la région où je vis, pour la musique industrielle. Bon, c'est pas la meilleure partie pour moi des années 80, mais cette espèce de nostalgie masque vraiment ce qu'étaient ces années. Et voilà, les années de l'apparition du sida, de la misère sociale, la toxicomanie, c'était quand même complètement dingue. Si je reviens au personnage de Franck, du coup, il appartient également à cette catégorie d'étrangers. Il devient lui-même un gentil, il devient lui-même un étranger, vu que pour son ex-femme, il devient un étranger. Elle ne le comprend plus. Et pour la société aussi. Franck, il va quand même vendre sa boutique de disques. Il veut plus travailler, il veut assassiner celui qui a tué sa fille. Et de lui-même, il va commencer à s'exclure. Mais la société lui renvoie quand même ce message de non-conformité. Ses limites, il ne ferait pas le choix de devenir un étranger, un gentil. Alors, il y a ceux qui sont catalogués par les sociétés, bon, je l'ai évoqué, hein, les étrangers, les toxicos, les expatriés également, de la société pétrolière, les étrangers, donc les gentils, qui font le choix de le devenir, Franck, on l'a évoqué, mais également les habitants de Jamestown. Et c'est avec eux que l'on retrouve la signification religieuse du terme gentil d'ailleurs. Alors je ne vais pas développer davantage cette analyse-là, d'autres l'ont peut-être déjà fait, parce que ce roman est sorti il y a quelques temps quand même. Je ne veux pas en dévoiler plus pour ne pas vous gâcher la lecture, notamment celle de la fin. Sachez que pour cette fin, Michael Mention s'est basé sur une histoire réelle. Ce qui est encore plus dingue, vraiment. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est un polar noir, c'est évident. C'est un road trip sur la vengeance, oui. Mais pas que. Pas que, c'est un roman qui est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire partir mon analyse à partir du titre. Parce que c'est vrai, quand on lit l'intérieur, qu'on voit le titre, les gens pourraient se demander, tiens, c'est plutôt étonnant. Mais tout a un sens, en fait. C'est hyper réfléchi. Et cette connotation religieuse, cette connotation d'exclusion par rapport à tout ce que Michael a pu dire dans l'interview, là, tout devient limpide, en fait. Et ce roman, il se lit d'une traite. Moi, je l'ai lu d'un bloc. C'était impressionnant. Ça m'a vraiment... Alors après, voilà, vous n'avez pas le moral. Hein, mais c'est vraiment puissant. Ces réflexions, en fait, c'est la force de ce roman, bien sûr. Réflexion face à l'étranger. Réflexion face également à la vengeance. Parce que là, on n'est pas sur du manichéisme, on n'est pas sur une justification à la Charles Bronson, du voilà, justicier dans Paris, je vais limiter, buter celui qui a tué ma fille. Non, on est vraiment sur quelque chose de très réfléchi, j'insiste là-dessus. Ce qui est d'autant plus plausible, ce qui est d'autant plus prenant aux tripes, parce que c'est ça aussi le style de cet auteur, c'est ça le style de Michael Mention, c'est d'arriver à nous prendre aux tripes par son phrasé, par son style, par la finesse de celui-ci, par la réflexion de celui-ci, la fluidité de celui-ci également, ce qui fait qu'on passe un agréable moment de lecture, parce qu'on est sous charme de cette lecture-là, on apprend énormément aussi, et on réfléchit, tout en se divertissant. Donc pour moi, c'est un énorme coup de cœur que ce Les Gentils, qui est paru chez Belfond dans leur collection Noire, et je vous inviterai vraiment à avoir la curiosité de lire ce que Michael a également écrit, et je pense que vous ne serez pas déçus, loin de là. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très très vite pour un nouveau podcast consacré à des coups de cœur de lecture.